Exercice 7.
Nous allons consacrer notre débat de ce matin à la judiciarisation des rapports médecin-malade. Le juge s'est en effet invité dans cette relation. Plus exactement, il a été convoqué le plus souvent par les patients pour arbitrer des différents majeurs que connaissait cette relation. Le cas des médecins n'est d'ailleurs pas isolé. Ils n'ont fait que suivre les hommes politiques, les travailleurs sociaux, les hommes d'affaires, les juges eux-mêmes, dans ce phénomène général que l'on pourrait appeler la fin des immunités. Mais ici comme ailleurs, cette judiciarisation de la relation de soins n'est pas sans générer des effets pervers. Alors, que penser de cette implication du juge ? A-t-elle amélioré la qualité de la relation médecin-malade ? N'a-t-elle pas plutôt introduit de la méfiance et généré des stratégies défensives de la part du corps médical ? Ce sont les questions que l'on va se poser ce matin avec mes deux invités, Jean-Marc Morin, qui est magistrat mais qui est actuellement directeur des affaires juridiques et des droits du patient à la PHP, c'est-à-dire à l'assistance publique hôpitaux de Paris, et qui en débattra avec le professeur Jean-Paul Chigaud, qui est ancien chef de service du service de chirurgie viscérale et endocrinienne à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans lequel il a exercé depuis 40 ans, et qui a également exercé les fonctions de médecin conseil auprès du service juridique, c'est dire s'il est averti de ces questions. Mais d'abord, pour que les auditeurs se rendent compte, Jean-Marc Morin, quelle est la réalité de cette judiciarisation ? Est-ce qu'il est exact qu'on a assisté ces dernières années à une intensification, à une augmentation des procès des malades contre leurs médecins ?
Bonjour d'abord.
Bonjour.
Je voudrais un peu remplacer le cadre du débat au niveau de la science publique hôpitaux de Paris. La science publique hôpitaux de Paris, c'est 37 hôpitaux, 90 000 personnes, 750 services, 1 million d'hospitalisations, 1 million de passages aux urgences, 14 millions d'actes médicaux et 36 000 naissances. Donc on voit bien qu'il y a quand même une activité extrêmement importante. Et en face de ça, les chiffres que j'ai depuis plus de 6 ans où je suis donc à ce poste, et 1250 à peu près réclamations ou plaintes par an. Donc il faut relativiser considérablement.
C'est quand même extrêmement faible.
C'est extrêmement faible. Le phénomène de la judiciarisation...
Et là-dessus, combien de poursuites pénales ? Parce que c'est ça, finalement, qui hante la relation médecin-malade.
Actuellement, le nombre de poursuites pénales à la PHP est de l'ordre de 5.
Les médecins, eux, ils interprètent très mal tout ça. Et à chaque fois qu'il y a une réclamation, je vois des chefs de service, pourtant expérimentés, d'un certain âge, qui n'ont qu'une terreur, c'est d'être mis en cause en pénal. Alors que finalement, comme l'a dit Jean-Marc Morin, c'est tout à fait exceptionnel. Oui. Et ça, c'est également, il faut qu'on l'explique aux médecins, c'est pas seulement au public.
C'est ça. Donc, oui, Jean-Marc Morin.
Il y a une confusion claire dans l'esprit, et des journalistes d'ailleurs, et des patients, qui est qu'une plainte est pénale.
C'est ça, parce que vous avez parlé de réclamation.
Ce n'est pas le cas. Oui, si j'ai parlé de réclamation, c'est qu'il y a une vraie nuance.
Mais alors, est-ce que, Jean-Paul Chigaud, est-ce qu'une des difficultés de la médecine, des évolutions contemporaines de la médecine, c'est pas cette multiplicité d'intervenants ? Il y a bien un patient, mais il n'y a pas en face un seul médecin. Il y a une équipe.
Oui, mais ce que je pense aussi, c'est que, comme vous l'avez dit il y a un instant, c'est qu'effectivement, il y avait autrefois un couple médecin-malade qui était soudé par une relation de confiance absolue du malade envers le médecin. Et ce couple a été un petit peu violé par l'apparition d'autres intervenants, aussi bien des magistrats que des avocats, des médecins conseils, etc.
Vous l'avez connu, vous, cette relation, Jean-Paul Chigaud ?
Ah oui, absolument. Mais c'était d'ailleurs, c'était a posteriori, on se dit que c'était pas bien, parce que c'était l'époque où, bien que l'information des malades fasse partie des devoirs éthiques depuis toujours, puisque dans le code d'Hammurabi, on en parle déjà. Il n'empêche que l'information donnée par les médecins était totalement négligée et que un chirurgien pouvait imposer un acte chirurgical, même s'il n'était pas justifié, sans la moindre discussion. Donc il y avait ça. Et puis il y avait aussi une chose qui était qui n'existait, qui a mis longtemps à apparaître, c'est la notion de faute médicale. Et moi, au début de ma carrière, on ne parlait jamais de faute médicale, alors que là encore, c'est inscrit depuis des temps immémoriaux dans les textes. C'est inscrit dans le code d'Hammurabi, c'est inscrit dans la Lex Aquila de Rome au IIe siècle avant Jésus-Christ.
Parce qu'on parle souvent quand même de cette phase comme un peu l'âge d'or, quoi, ce qu'on entend dans le discours médical, un peu l'âge d'or de la relation médecin-malade.
Oui, alors c'était aussi l'âge d'or dans la mesure où la technologie était relativement rudimentaire, les gestes thérapeutiques beaucoup plus simples qu'à l'heure actuelle, et que donc les risques finalement des actes thérapeutiques étaient peut-être inférieurs à ce qu'on connaît maintenant. Et c'est ça que les gens veulent pas comprendre.
C'est paradoxal.
Les gens veulent pas comprendre, c'est qu'ils pensent actuellement que la médecine est toute puissante, qu'on pourra toujours les guérir, quelle que soit la sévérité de leur maladie, et qu'ils ont droit à la guérison. Alors que les technologies nouvelles, dans tous les domaines, en radiologie interventionnelle, en chirurgie, etc., ont fait apparaître des risques qui n'existaient pas auparavant. Et ça, c'est très paradoxal, mais c'est la réalité.